BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Stéphanie Collo.
Bienvenue dans ce BFM Climat consacré au sommet objectif décarbonation. Nous sommes ici à Bercy, au ministère de l'économie, pour cette édition qui intervient 10 ans après les accords de Paris. L'objectif, c'est de comprendre comment l'industrie, comment les services, comment les acteurs publics accélèrent leur transition vers une économie bas carbone. Alors décarboner aujourd'hui, ce n'est plus une option, hein, c'est un impératif stratégique, économique, réglementaire. Mais 10 ans après, où en est-on? Comment y parvenir dans un contexte où les attentes des citoyens en la matière ne cessent de croître, mais où les impératifs économiques mettent aussi la rentabilité des entreprises sous pression? Alors quels sont les leviers d'action? Comment articuler ambition environnementale, performance industrielle et compétitivité? Autant de sujets qu'on va aborder avec mes invités dans un instant. Maître Ruth Guerra, spécialiste des politiques climatique et énergétique à l'échelle mondiale chez KPMG Avocat. Alexandra Fabreau, directrice monde des solutions durables chez SGS. Bertrand de Singly, délégué général adjoint de France Industrie. Mais d'abord, on va faire le point avec l'organisateur de ce sommet. Bonjour Julien Guéniche.
Bonjour Stéphanie, merci beaucoup.
Merci à vous, vous êtes le président et cofondateur du Forum de l'engagement. Vous êtes à l'initiative de ce sommet Objectif Décarbonation. Alors il rassemble cette année encore de nombreux acteurs économiques, institutionnels, experts. Je le disais en introduction, l'accord de Paris c'était il y a 10 ans. Depuis, on en est où?
Alors écoutez, pour être très honnête, moi je ne suis pas expert du sujet, comme j'aime bien le dire, je suis plus un rassembleur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir discuté quotidiennement avec énormément d'entreprises, d'acteurs de différents horizons, qu'il s'agisse, comme vous l'avez dit, hein, d'institutions, d'écoles, d'étudiants, je pense que tout le monde est sur la voie. Aujourd'hui, tout le monde est sur la voie. Et j'ai toujours eu une approche assez, bien sûr que les chiffres sont importants, mais assez qualitative des choses. Aujourd'hui, on sent vraiment que les gens mettent du cœur à l'ouvrage. Ils ont pris pleinement conscience de ces sujets. Ils les intègrent entièrement dans leurs différents process. Et je pense qu'on avance. Alors certes, pas assez vite. Mmh. La chaleur qu'il fait aujourd'hui, il va faire 39 degrés au thermomètre cet après-midi, le montre. L'urgence climatique est là. Elle est bel et bien là. La fenêtre d'opportunité est en train de se refermer. Mais je pense qu'on ne peut pas faire plus que ce qui est fait maintenant sans risquer, c'est mon point de vue personnel, de bousculer trop le système et d'être contre-productif.
Mais alors justement, vous l'avez dit, il y a une prise de conscience qui est mondiale. Malgré tout, la transition est quand même lente. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un problème de moyens finalement?
Alors, il y a certes la question des moyens. C'est aussi un des objectifs de cet événement. On parle beaucoup de financement, de finances vertes, de finances durables. Mais je pense avant tout qu'il faut aussi, voir ça vue d'avion. Essayer de se dire que les entreprises, notamment puisque c'est d'elles qu'on parle principalement, ont appris à produire, ont appris à avancer avec des process qu'elles ont expérimentés, développés pendant des décennies, voire des siècles. Et il est extrêmement compliqué de tout changer du jour au lendemain. Donc je sais que le temps, nous n'en avons pas, et elles le savent aussi bien mieux que moi. Mais malheureusement, si on va trop vite, si on va trop fort, on risque de se retrouver avec beaucoup d'autres problèmes, finalement, qui seront ailleurs. Donc, bien sûr que ça va jamais assez vite, c'est sûr. Mais la question, encore une fois, c'est un peu mon point de vue, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, vous savez, on parle de plus en plus d'adaptation au changement climatique, est-ce que finalement, la bataille de la décarbonation, elle ne doit pas se doubler aussi d'un principe de réalité qui est celui de pouvoir adapter nos structures, qu'elles soient publiques comme privées, finalement, à ce changement climatique.
Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les entreprises de concilier à la fois les impératifs économiques et l'engagement climatique? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accélérer cette transformation?
Alors premièrement, oui, je pense qu'il est tout à fait possible et elles en ont pleinement conscience. C'est moi je viens de, mais je plonge mes racines très profondément. On a fait pendant plus de 10 ans des événements sur la question du handicap. En entreprise, vous allez voir où je veux en venir. Je pense qu'en fait, les entreprises sont depuis plusieurs décennies habituées à parler d'inclusion, à mettre l'homme finalement au cœur du process. Et je pense que cette question de la durabilité, elles ne l'ont peut-être pas abordée d'emblée du point de vue de la décarbonation, sous l'angle de cette décarbonation, mais en tout cas, elles sont pleinement conscientes qu'il s'agisse de handicap, qu'il s'agisse d'égalité professionnelle, qu'il s'agisse voilà, de beaucoup d'autres questions, cette durabilité, elles l'ont. Alors après, bien évidemment, comme on l'a dit, on ne va pas se répéter, il y a quand même un hiatus entre finalement la continuation des process, le fait d'innover aussi, et les entreprises innovent énormément, mais il faut un peu de temps pour que les planètes s'alignent, je pense.
Alors, on va le voir hein, au cours de l'émission, l'Europe est quand même précurseur en matière de décarbonation, en matière de réglementation. Quand on voit le retour en arrière sur le sujet des États-Unis par exemple, de la Chine, toujours très dépendante du charbon, est-ce que finalement, nous, l'Europe, on se sent un peu pas seul dans cette démarche?
Alors j'ai envie de dire au contraire. Je pense que nous sommes capables, à la fois au niveau collectif, européen, national, français et surtout au niveau individuel, de prendre ces soubresauts comme un tremplin. Parce que c'est justement dans la tempête, comme on dit, qu'il faut s'accrocher à la corde. Et c'est celui qui arrivera à tenir la corde au bout qui sera le gagnant. Moi, j'en suis vraiment profondément convaincu. Je pense que on a peut-être fait, à mon humble avis, les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que on a signé des accords extrêmement globaux, les accords de Paris et puis d'autres, des lois très englobantes. On a voulu à chaque fois, parce que malheureusement, le phénomène climatique ne s'arrête pas à la frontière des pays, c'est un phénomène mondial, mais peut-être que nous n'avons pas assez pris conscience de nos atouts, de nos spécificités. C'est justement l'objectif de cet événement, que de dire à chacun qu'il peut faire quelque chose, qu'il doit faire quelque chose, et qu'il le fait déjà, et justement qu'il en soit fier.
Merci beaucoup Julien Guény. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur du Forum de l'engagement à l'initiative de ce sommet Objectif décarbonation. Tout de suite, on va voir de quelle manière la réglementation, justement on en a parlé ensemble, de quelle manière la réglementation a permis d'accélérer ce mouvement de décarbonation en France et en Europe.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.
Bonjour Ruth Guerra, vous êtes avocate spécialiste en commerce international et fiscalité verte chez KPMG Avocat. Alors on assiste depuis quelques années maintenant à une accélération du cadre réglementaire européen autour de la décarbonation. Il y a eu de nombreuses lois qui ont été mises en place par l'Union européenne pour accélérer la transition écologique des entreprises. Et ce cadre réglementaire, il évolue. Il continue à évoluer.
Oui, tout à fait. Il continue à évoluer parce qu'on est dans un environnement concurrentiel et de commerce international qui n'est plus du tout le même qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, à l'époque de l'accord de Paris, il y avait un consensus, au moins dans la plupart des pays développés, sur les objectifs de décarbonation et les politiques qui devaient suivre depuis. Maintenant, depuis à peu près 10 mois, on est dans un changement total. Du contexte géopolitique, du contexte économique également. Donc les réglementations, elles s'adaptent aussi. Donc on voit depuis janvier de cette année, au niveau de l'Union européenne, on est beaucoup plus sur des réglementations qui vont, tout en maintenant ces objectifs de décarbonation, se centrer sur la compétitivité des entreprises, la souveraineté énergétique, la souveraineté technologique. Donc on allie compétitivité et décarbonation, ce qui n'était pas toujours le cas avant.
Et oui, ce qui n'était pas le cas. Donc compétitivité, souveraineté pour le cadre réglementaire. C'est quoi les grandes échéances à venir pour les entreprises? À quoi elles doivent se préparer là maintenant?
Je pense que j'ai autant de réponses que de produits existent dans le monde ou de services. Si vous me dites qu'on parle d'une entreprise qui va importer de l'acier, on a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont la phase définitive va entrer en vigueur en 1er janvier de l'année prochaine. Si on parle de cacao, de soja ou de bois, on a plutôt la réglementation sur la déforestation importée qui entre en vigueur également en fin d'année. Mais on a également, par exemple, sur les batteries, la réglementation sur l'éco-design. On a également les réglementations de reporting. Donc on a un millefeuille réglementaire, voire voire même, j'ai utilisé tout à l'heure lors de la conférence, plutôt un spaghetti bowl, parce que ce n'est plus un millefeuille, puisqu'il n'y a pas les textes ne sont plus ordonnés, ils sont imbriqués les uns avec les autres. Ouais. Et donc, la charge réglementaire aujourd'hui, elle n'est pas facile à appréhender, parce qu'il y a le sujet de la compréhension, mais il y a surtout la complexité de mise en œuvre.
Mmh. Mais alors justement, quelle stratégie pour appréhender ces nouvelles règles?
Ces nouvelles réglementations, il faut déjà avoir une vision assez précise de ce qui s'applique aujourd'hui, l'échéance qu'on va avoir l'année prochaine et les échéances qu'on a durant les 5 prochaines années. Même si, malheureusement, de temps en temps, elles évoluent. Et puis, il faut avoir une approche très transverse. Ce sont, dans la plupart des réglementations qui ont un impact dans tous les niveaux, tous les business utilities de l'entreprise, et même au niveau des fournisseurs et au niveau des clients. Donc, il faut vraiment avoir cette approche transverse. Et enfin, il ne faut pas oublier que derrière toutes ces réglementations-là, il y a souvent une obligation de traçabilité, de reporting, de compliance assez lourde, mais elles sont aussi accompagnées de beaucoup de financements, que ce soit des financements européens, que ce soit des crédits d'impôt, que ce soit maintenant, la semaine dernière, la Commission européenne a annoncé une modification des aides d'État, justement pour prendre en charge des coûts d'énergie de grands consommateurs d'énergie en contrepartie d'un investissement dans la décarbonation. Donc il faut vraiment avoir cette vision transverse des réglementations et de comment les appliquer et se faire accompagner par les différents experts internes ou externes, mais vraiment avoir cette vision transverse et un peu long terme.
Mmh. Ouais, donc il y a des moyens quand même, vous le dites, hein, il y a quand même des moyens qui sont mis sur la table. L'Union européenne a aussi lancé une dynamique de relocalisation industrielle. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui relocaliser de manière décarbonée?
Alors on peut... On peut relocaliser. Le 100% de décarbonation, c'est difficile. Ça va dépendre beaucoup de la typologie de produits ou de process dont on parle. Ce qui est certain, c'est que quand on relocalise aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'investissements. On a d'autant plus besoin d'un investissement lorsque c'est de la relocalisation de produits stratégiques ou de technologies stratégiques. Il y a des aides pour ça. Elles ne font pas tout le financement, malheureusement. Donc, il y a vraiment un partenariat public-privé à trouver, des financements externes, banques, par exemple. Et il faut essayer de s'appuyer également sur les crédits d'impôt qui peuvent exister. Mmh. Et après, on est encore dans un tournant technologique avec des techniques de captation d'émissions, par exemple, d'émissions évitées, d'efficience énergétique, qu'on n'avait pas il y a un certain temps. Donc, il faut bien suivre ces évolutions technologiques. C'est pas facile. Déjà, la réindustrialisation n'est pas facile, parce qu'il faut avoir, comme je disais, le financement et il faut avoir le marché long terme également. Mmh. Et c'est là où les opérateurs, ils ont besoin de beaucoup plus de stabilité.
Bien sûr. Bien sûr. Très rapidement, si vous aviez un message, un réflexe clé à donner à une entreprise face à ce mur réglementaire qui se dresse face à elle, ce serait lequel ?
Déjà, réussir à avoir une bonne vision d'ensemble. Le problème qu'on a, c'est que les réglementations, elles sont sectorielles, elles sont par typologie de produits, elles sont par géographie également. Donc, il faut avoir une bonne vision d'ensemble pour pouvoir après avoir une feuille de route stratégique et cohérente. Des fois, on ne peut pas tout faire au même moment. Donc, en fonction des impacts et des priorités, on peut orienter. Mais pour ça, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble. Et puis, je pense également qu'il faut intégrer au maximum possible l'application des réglementations, mais que ce soit un objectif de décarbonation réglementaire ou que ce soit juste volontaire, il faut réussir à l'intégrer le maximum possible dans le business model de l'entreprise, parce que sinon il ne sera jamais durable.
C'est ça. Merci beaucoup Ruth Guerra. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste en commerce international et fiscalité verte chez KPMG Avocat. Autre acteur qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de décarbonation, ce sont les entreprises de certification. Eh bien, on retrouve dans quelques instants un des leaders mondiaux du secteur.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.
Bonjour Alexandra Fabreau.
Bonjour Madame Collot.
Vous êtes directrice monde des solutions durables chez SGS. SGS, c'est un acteur mondial du contrôle et de la certification. Alors justement, c'est quoi le rôle de SGS dans l'accompagnement des stratégies d'entreprise pour leur décarbonation?
Oui, donc SGS, en Société Générale en effet de surveillance, le rôle est clair, il est vraiment de créer la confiance au sein des sociétés et dans toute leur chaîne de valeur, dans leur transformation. Quel que soit en effet le secteur d'activité qui va, en effet de secteur énergétique, agroalimentaire, etc. Et peut-être en effet un mot par rapport à cette société, elle a été fondée il y a à peu près 150 ans à Rouen, et en effet aujourd'hui nous sommes leader mondial du test, des services de test, inspection et certification. Donc pour revenir à votre question, je dirais que nous avons trois rôles principaux. Le premier qui est vraiment le rôle d'être acteur sur le terrain auprès des clients. N'oublions pas qu'AGS a plus de 99 000 collaborateurs dans le monde, actifs dans 115 pays avec 2500 laboratoires et bureaux. Le deuxième point, évidemment, c'est d'amener des solutions concrètes. Hein. Aujourd'hui, les industriels veulent passer de l'engagement à l'action et nous proposons justement une plateforme de solutions concrètes sur quatre gros piliers, le climat, la circularité, la nature, évidemment l'assurance ESG.
Alors justement, comment vous accompagnez concrètement les stratégies de décarbonation des entreprises ?
Alors concrètement, je vous donne des exemples en effet spécifiques. On va effectuer des contrôles de qualité et d'inspection des infrastructures, des équipements pour assurer la sécurité, la performance et la durabilité. Nous allons aussi effectuer des tests d'analyse environnementale de l'air, de l'eau, des sols, mais également nous fournissons des certifications, l'accompagnement au niveau de la évidemment de la partie conformité réglementaire, et nous avons tout un panel de formation, de conseils techniques pour aider justement les entreprises dans cette transformation.
Alors vous l'avez dit, vous opérez à l'échelle mondiale, vous êtes présent dans 115 pays dans le monde. Les contextes, on le sait, sont très variés. C'est quoi les principaux défis que rencontrent les entreprises aujourd'hui pour relever le défi de décarboner l'ensemble de leur chaîne de valeur ?
Alors en effet, la chaîne de valeur, selon l'industrie, est complexe. On n'est pas seulement au sein d'un pays, mais en effet, ça peut être en effet justement global. Donc je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est identifier les acteurs clés de la chaîne de valeur. Le deuxième point, évidemment, c'est l'approche des données, les données fiables. Hein. Comment mesurer et comment les vérifier. Donc ça, en effet, on est acteur à ce niveau. Et puis, la sensibilité, il est important de sensibiliser toute la chaîne de valeur et des acteurs. Surtout, vous le mentionnez tout à l'heure, par rapport à des pays où la réglementation n'est pas encore présente, comme le cas par exemple de l'Europe et de la France. L'autre point, évidemment, c'est la partie de l'infrastructure. Il se peut, en fonction des industries, que l'infrastructure ne soit pas encore présente. Et ça, c'est un point, un défi clé dans la décarbonation. Évidemment, les deux derniers points, c'est la partie technologique. Hein, souvent, en fonction de l'industrie, la technologie n'est pas encore présente, hein, ou en effet en cours de développement. Et le dernier point, c'est clairement le soutien financier pour amener cette décarbonation.
Et oui, évidemment, le soutien financier, c'est clairement important. Néanmoins, les entreprises, j'imagine qu'elles rencontrent des freins. Quels sont-ils dans leur démarche de décarbonation ?
Tout à fait, vous avez raison. Je pense qu'il y a trois gros freins. Le premier frein opérationnel, hein, clairement. Aujourd'hui, prenez le réseau des PME, des ETI. Elles ont besoin de comprendre comment identifier les émissions de gaz à effet de serre, les mesurer. Clairement, en interne, développer des ressources compétentes. Et puis, la partie digitalisation qui est aussi un point important pour notamment décarboner toute la chaîne de valeur. Ça, c'est le frein opérationnel. Le deuxième point, évidemment, c'est la partie finance, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On a besoin des supports de l'État et des investisseurs, hein, pour accélérer cette transition. Et le troisième point, c'est le frein technologique, qui est un point important.
Alors, on l'a dit, vous êtes présent dans 115 pays. Vous avez donc matière à comparer, évidemment. Comment les entreprises françaises se situe dans leur démarche de décarbonation? Est-ce qu'on a des atouts en France et à l'inverse, est-ce qu'on a également des handicaps?
Je pense avant tout que la France occupe une place solide, hein, parmi les acteurs internationaux, leaders internationaux, dans le cadre de la décarbonation. Pour moi, c'est évident. Peut-être trois éléments à ce niveau. Il y a un cadre réglementaire européen, évidemment, mais aussi français, hein, la stratégie France 2030 et autres. Donc ça, c'est un point clé. Il y a des acteurs institutionnels aussi importants en France, hein. Vous avez la BPI France, vous avez l'ADEME, hein, donc des piliers qui vont aider à la transformation auprès de ces entrepreneurs des sociétés. Et puis, évidemment, vous avez le cadre des entreprises, hein, qui est un point important, et c'est là, en effet, où on aide lors de la transformation de ces sociétés.
Dernière question, Alexandra Fabreau. Est-ce que, selon vous, on peut concilier industrie et sobriété carbone? Est-ce que c'est possible?
Absolument. Je pense qu'il faut être très positif, il faut aller de l'avant. Les défis sont en effet à relever. Il y a des technologies viables à grande échelle, évidemment. On parlait des gaz en effet verts, mais on a aussi évidemment la partie hydrogène, des nouvelles technologies sur le recyclage chimique, hein, qui aide à l'utilisation des déchets plastiques et pas seulement. Et on a le démarrage de ces nouvelles technologies comme le fameux captage et stockage du carbone.
Merci beaucoup Alexandra Fabreau. Je rappelle que vous êtes directrice monde des solutions durables chez SGS. Tout de suite, on va voir comment un des acteurs qui pollue le plus l'industrie, on va voir où elle en est justement dans sa stratégie de décarbonation et comment elle se situe par rapport à ses voisins européens.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.
Bonjour Bertrand de Singly.
Bonjour Stéphanie Collot.
Vous êtes directeur général adjoint de France Industrie. Alors l'industrie reste l'une des activités les plus émettrices en carbone au niveau national, même si évidemment la tendance est à la baisse. On entend souvent que l'industrie est à la fois une partie du problème, mais aussi une grande partie de la solution en matière de climat. On en est où aujourd'hui, l'industrie, elle en est où aujourd'hui dans sa trajectoire de décarbonation en France?
Alors l'industrie était à la première place des émissions, comme vous le disiez à l'instant. Aujourd'hui, on est à la troisième place derrière d'autres secteurs d'activité. Donc l'industrie a déjà fait un chemin qui est extrêmement important. Quand on regarde en émissions de CO2, l'industrie, c'était 140 millions de tonnes de CO2 en 1990, qui est l'année de référence quand on parle des objectifs climatiques. En 2019, avant le Covid, on était aux alentours de 80 millions de tonnes. Et les objectifs européens traduits en France, c'est d'arriver à 45 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 pour l'industrie. Donc l'industrie, c'est le secteur parmi les secteurs d'activité qui s'est décarboné le plus vite. Pour une raison assez simple, c'est que les industriels ont un intérêt à se décarboner. C'est pas un intérêt qui est nouveau, c'est aussi un intérêt parce que se décarboner, ça passe aussi par de la performance, de ce qu'on appelle efficacité énergétique, par de la sobriété. Et ça, ce sont des choses que les industriels prennent en compte de façon systématique dans leurs investissements. Donc ça continue. Et l'autre bonne nouvelle, je pense, c'est quand même de dire que sur cette baisse des émissions, il y a seulement 20 à 30% de cette baisse qui provient des délocalisations. Ce qui veut dire que 70 à 80%, c'est de la vraie baisse d'émissions.
Ouais, donc ça reste quand même une tendance nettement à la baisse. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de concilier à la fois l'engagement climatique et la compétitivité des entreprises industrielles? Est-ce que c'est possible de concilier les deux?
Je crois qu'on n'a pas le choix en fait. Il faut évidemment concilier les deux. Il faut le concilier sans naïveté, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans une compétition qui est mondiale. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une
mais
chaîne...
Mais pas avec le même cadre réglementaire partout dans le monde, donc c'est peut-être ça qui peut aussi...
L'enjeu, c'est de s'assurer que les cadres réglementaires, et je pense que le cadre qui est le cadre le plus propice, ce sont souvent des cadres européens, c'est que ce cadre européen se fasse de façon, on va dire, cohérente avec le cadre des principaux marchés mondiaux, et c'est vraiment dans l'enjeu, dans les discussions que les industriels ont avec les autorités françaises ou les autorités européennes, c'est de s'assurer que les règles du jeu conduisent à atteindre l'objectif climatique sans déplacer la difficulté. C'est-à-dire que si c'est pour déplacer des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe en dehors de l'Europe, en fait, ça n'a pas du tout fait avancer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc cet enjeu-là, c'est comment on réduit sans déplacer. Et c'est toute la question des systèmes. Il y a des systèmes de quotas, il y a des systèmes de protection carbone aux frontières. On veut aussi mettre en place un nouveau système de ETS, donc le trading system sur le bâtiment et le transport. Donc c'est des questions qui sont fondamentales. Et au-delà de l'acceptabilité sociale ou économique des dispositifs, ce qui compte pour nous, c'est que l'objectif soit atteint, c'est qu'on décarbone en continuant à produire en France.
Alors Bertrand de Saint-Gly, l'État français, l'Europe aussi, ont mis en place plusieurs dispositifs pour aider à décarboner, aider les entreprises à décarboner. Il y a France 2030, il y a le fonds décarbonation, il y en a d'autres. Est-ce que selon vous, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut mettre davantage de moyens pour accélérer la décarbonation, ou finalement, c'est pas une question de moyens selon vous?
Les moyens sont indispensables. Je crois que les travaux qu'a fait le secrétariat général à la planification écologique montrent que pour décarboner l'industrie, dans le rythme où on veut décarboner, sans soutien public massif, on n'atteindra pas les objectifs aux bonnes dates. Donc c'est crucial. France 2030, c'est 5,6 milliards d'euros consacrés à la décarbonation. Je crois que la direction générale des entreprises a dit qu'on avait déjà dépensé ou engagé 2,2 milliards. Donc on est sur la bonne trajectoire. Le choix qui a été fait, c'est de concentrer, j'irais, sur les sites les plus émetteurs, donc les 50 sites les plus émetteurs, parce que à eux seuls, ils représentent à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre industrielles. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est très efficace. C'est-à-dire que si on arrive, et ils ont signé des contrats, à atteindre en 2030 les objectifs qui sont fixés, on aura fait la moitié du chemin pour l'industrie. Et évidemment, il faut faire l'autre moitié du chemin, et ça suppose d'embarquer l'ensemble des filières industrielles pour toucher
les PME aussi,
les ETI industrielles. Et ça se fait avec d'autres types de dispositifs qui peuvent être des accompagnements. L'ADEME fait des choses assez exceptionnelles avec Pacte Industrie, et on pense aussi que pour les PME, un des enjeux, c'est de prendre en compte et d'avoir en tête les enjeux de cette décarbonation, et c'est tout à fait aussi accessible. Les structures sont pas les mêmes, mais en tout cas, on ne réussira que si ça marche partout. Et on croit aussi beaucoup aux démarches territoriales pour embarquer sur des zones. Donc ça peut être des types de ZIBAC, zones industrielles bas carbone. Il y a aussi territoires d'industrie. C'est de fédérer sur une zone, sur un cluster, l'ensemble des acteurs pour faire des démarches de décarbonation.
Merci beaucoup Bertrand de Saint-Gly. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de France Industrie. C'était BFM Climat Sommet Objectif Décarbonation, organisé à Bercy au ministère de l'Économie pour l'occasion. Un numéro à retrouver évidemment en replay et en podcast sur toutes nos plateformes.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.